Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ouvrons nos Bibles ce soir au chapitre 3 de 2 Pierre, alors que nous étudions ensemble la parole de Dieu. Nous revenons à notre série sur la certitude de la seconde venue. Ceci en passant est la troisième partie de cette série, 2 Pierre chapitre 3. En tant que chrétiens, il est évident pour nous tous que nous anticipons par la révélation des Écritures le retour de Jésus-Christ. Mais c'est plus, je pense, qu'une partie de notre théologie. Cela fait également partie de l'anticipation de nos cœurs. En tant que croyants, nous aspirons au jour où le Seigneur Jésus reviendra, pour prendre les siens pour être avec lui, et ensuite pour juger les pécheurs du monde, afin d'établir son royaume et apporter la justice éternelle. Pour tous ceux qui proclament vraiment le nom de Jésus-Christ, une telle espérance est au cœur de leur foi. Mais pour les moqueurs qui attaquent le christianisme, il y a un ridicule continuel sur une telle doctrine, une telle anticipation. Nous constatons que ce ridicule est le sujet de la discussion de Pierre dans ce chapitre. Vous vous souviendrez, j'en suis sûr, du verset 3, des moqueurs qui viennent avec leurs moqueries, et au verset 4, ils disent « Où est la promesse de son avènement ?» L'une des principales attaques des faux enseignants et des moqueurs à travers les siècles a été la doctrine du retour de Jésus-Christ. Pendant un instant, supposons qu'ils aient raison. Supposons que Jésus ne revienne pas. Supposons que Jésus ne soit jamais réellement ressuscité des morts et, par conséquent, ne puisse pas revenir, car il est mort. Pensez aux implications. Le mal ne serait jamais réparé. L'injustice dans ce monde ne serait jamais remplacée par la justice et l'équité. La souffrance ne serait jamais récompensée dans ce monde. La malédiction sur ce monde ne serait jamais supprimée. Le paradis serait perdu mais jamais retrouvé. L'espoir du cœur humain pour une vie meilleure ne serait qu'une chimère. Le désir d'un monde meilleur serait une illusion. Si c'est tout ce qu'il y a, un monde méchant qui se détériore de plus en plus, et il n'y a pas de changement à prévoir, pas d'altération, pas de transformation, pas de monde meilleur, pas de vie meilleure, pas de fin à la douleur, pas de fin à la maladie, pas de fin à la mort, pas de fin à la déception. Si tout cela est vrai, alors le péché règne, Satan gagne et l'univers continue sur le chemin de sa propre destruction. Pourquoi? Quelle sorte de blague cruelle est cette vie et ce monde? La question est vraiment de savoir si nous pouvons supporter une telle croyance. Pourrions-nous commettre un suicide d'âme et croire qu'il n'y a pas de véritable résolution, que rien ne sera jamais corrigé? Pouvons-nous vraiment adhérer à ce point de vue des moqueurs, sans détruire tout espoir et faire des absurdités de l'existence humaine? Les faux enseignants du temps de Pierre avaient atteint un point dans leur hérésie où ils étaient carrément des attaquants de la seconde venue de Jésus. Parmi les choses qu'ils ont enseignées, qui étaient de l'hérésie, l'apogée semble être un refus du retour de Jésus-Christ. Cela impliquait probablement un déni de sa résurrection physique, littérale et corporelle. Mais à coup sûr, ils ont nié qu'il reviendrait. Ce déni a couronné toutes les autres dénégations qui faisaient partie intégrante de leur hérésie. Le déni de la seconde venue a apparemment culminé leur doctrine déformée et leur déni des Écritures. Ainsi, puisque Pierre écrivait cette deuxième épître pour traiter des faux enseignants, il doit alors, au chapitre 3, traiter cela, le point culminant de leurs faux enseignements. Souvenez-vous qu'au chapitre 1, Pierre nous a donné quelques garanties contre les faux enseignants. Des garanties comme vivre une vie sainte sous l'autorité de la parole de Dieu. Des garanties comme être sûr que vous êtes réellement sauvé et connaître votre condition spirituelle. Puis dans le chapitre 2, il a décrit pour nous les faux enseignants en détail, afin qu'ils nous soient reconnaissables. Maintenant, au chapitre 3, Il défend la foi contre leur erreur la plus importante. C'est une attaque contre le retour de Jésus-Christ. Lorsque nous entrons dans le chapitre 3, nous commençons à nous en occuper immédiatement. Rappelez-vous maintenant, Pierre a ouvert ce chapitre en se concentrant sur le débat des versets 1 à 9, le débat entre les moqueurs et ceux qui enseignent la vérité. Puis il fait une déclaration d'affirmation sur le retour du Christ. Puis, au verset 11 à 18, il clôt le chapitre en parlant des implications pratiques que le retour du Christ entraîne. Ainsi, les 9 premiers versets montrent le débat entre les moqueurs et ceux qui disent la vérité. Le verset 10 affirme la vérité. Puis les versets 11 à 18 décrivent ses implications. Au verset 1 et suivant, nous commençons par les arguments des moqueurs contre la seconde venue. Au verset 3, les moqueurs se moquent. Au verset 4, ils disent « Où est la promesse de son avènement ?» Ils ont un certain nombre d'arguments qu'ils utilisent. Le premier est l'argument du ridicule. Ce sont des moqueurs, et ils se moquent. Ils ridiculisent quiconque croirait en une doctrine aussi insensée. C'est l'attaque émotionnelle. Cela joue sur les sentiments. Certains chrétiens, vous vous en souvenez, à ce moment-là, s'attendaient à ce que Jésus soit déjà venu. Parce qu'il n'était pas venu, ils se demandaient si, d'une manière ou d'une autre, il n'allait pas tenir sa parole. Premièrement, leurs doutes ont poussé les moqueurs à les attaquer. Parce qu'ils luttaient déjà. Où est Jésus? Pourquoi n'est-il pas venu? Certains d'entre nous sont déjà en train de mourir. Et que va-t-il se passer? Sont-ils des chrétiens mourants qui vont manquer l'enlèvement? Ne vient-il pas? Où est le Seigneur? Nous pensions qu'il viendrait de notre vivant. Jouant sur leur émotion à ce moment-là, le moqueur se moque simplement d'une croyance aussi stupide. Deuxièmement, l'argument de la moralité. Je vous ai fait remarquer que le vrai problème ici, au verset 3, est qu'ils nient la venue de Christ parce qu'ils veulent suivre leur propre convoitise. En d'autres termes, leur doctrine de l'absence de seconde venue vient du fait qu'ils ne veulent aucune responsabilité. Ils ne veulent jamais avoir à répondre à Dieu de la vie qu'ils vivent. Comme ils veulent vivre une vie immorale et contrôlée par la luxure, ils ne veulent aucune responsabilité. Et ainsi, ils élimineront un jugement qui signifie que vous éliminerez la venue du Christ. C'est l'approche morale, l'approche émotionnelle, l'approche morale. Leur troisième argument est l'argument de l'uniformité. Au verset 4, à la fin, ils font cette déclaration ridicule. Depuis que les pères se sont endormis, tout continue comme il l'était depuis le début de la création. Ils disent que Dieu n'est jamais intervenu dans le jugement. Alors pourquoi croirions-nous qu'il le fera à l'avenir? Il ne l'a jamais fait. C'est l'argument intellectuel. Ils regardent l'histoire, et dans leur aveuglement volontaire, ils disent « Il n'y a jamais eu de jugement, donc il n'y en aura jamais ». Ils adoptent donc une approche émotionnelle, une approche morale, et une approche historique pour nier la venue du Christ. Nous nous souvenons également du deuxième point, à savoir les arguments des saints pour la seconde venue. De l'autre côté, le premier argument des saints est l'argument de l'Écriture, versets 1 et 2. Il leur dit « Afin que vous vous souveniez, verset 2, des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, c'est l'Ancien Testament, et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. C'est le Nouveau Testament. Souvenez-vous que la seconde venue est enseignée dans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est l'argument tiré des Écritures. Peu importe ce que disent les moqueurs, la Bible l'enseigne. Deuxièmement, est l'argument de l'histoire, verset 5. Il dit que les moqueurs oublient volontiers que Dieu a jugé. Il va du verset 5 à 7 pour parler du jugement de l'eau qui est venu sur le monde, du jugement au jour de Noé. Comment peuvent-ils dire que Dieu n'est jamais venu dans une destruction dévastatrice? Ils ignorent volontairement le déluge. L'argument de l'uniformité est ridicule. C'est un rejet délibéré de la vérité. Ils choisissent cette croyance simplement parce qu'ils ne veulent aucune responsabilité pour leur péché, pas parce que l'histoire le confirme. Troisièmement, l'argument de l'éternité au verset 8. Parce que le Seigneur n'est pas déjà venu ne signifie pas qu'il ne viendra pas. Cela ne veut pas dire qu'il est en retard, parce qu'avec le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Dieu n'opère pas selon un calendrier comme le nôtre. Il opère sur des conditions éternelles, sur une base éternelle. Vous ne pouvez pas confiner Dieu à un calendrier humain. Ainsi l'argument de l'éternité. Il peut vous sembler que Dieu a retardé sa venue. Mais rappelez-vous qu'un jour avec lui est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Et ainsi Dieu n'est pas du tout en retard, il ne tarde pas. Le Dieu éternel n'est pas limité par le temps. Puis, quatrièmement, l'argument du caractère de Dieu. Cela se trouve au verset 9. Ils disent « Où est-il ? Où est-il ? Il a promis de venir. Où est-il ? » Pierre, au point culminant de son argumentation, dit ceci au verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Pierre dit que le retard n'est pas un retard d'indifférence. Ce n'est pas un retard d'impuissance. Ce n'est pas un retard de distraction. C'est un retard de patience. Dieu, s'il attend, c'est parce que sa patience le fait attendre, parce qu'il ne souhaite que personne ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Maintenant, ce verset très important doit occuper notre réflexion, afin que nous obtenions une compréhension approfondie. Je veux que vous suiviez en quelque sorte votre Bible, et de manière réfléchie, alors que nous extrayons la vérité qui se trouve dans ce grand verset. Première déclaration. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. C'est une déclaration très importante. Le fait que tant de temps se soit écoulé depuis que Jésus a marché sur terre appelle cette explication. Même à l'époque où Pierre l'écrivait, cela ne faisait que quelques années que Jésus avait dit qu'il reviendrait. Ils se demandaient déjà pourquoi il n'était pas revenu. Ils éprouvaient définitivement l'espoir que ce serait de leur vivant. Même Paul l'indique. Maintenant, Pierre savait qu'il mourrait avant que Jésus ne vienne, parce que Jésus lui avait dit qu'il allait mourir dans Jean 21. Il savait donc qu'il ne serait pas en vie au retour de Christ. Mais il y avait beaucoup de croyants qui en supposaient le contraire. Jésus n'était pas revenu, donc il se demandait pourquoi il n'était pas revenu. Nous voici 2000 ans plus tard, et la question est encore plus pertinente pour nous, et nous pourrions la poser. Cela fait très longtemps, pas seulement une décennie ou deux, mais cela fait un millénaire, et il n'est pas revenu. Puis un autre millénaire, et il n'est pas revenu. Nous approchons de 2000 ans, et où est-il ? Pourtant, la promesse de l'Écriture est claire. 23 des 27 livres du Nouveau Testament nous disent qu'il reviendra. Il y a 260 chapitres du Nouveau Testament, et il y a 300 références au retour du Christ. Ainsi, le message est clair. Il reviendra. Pourquoi n'est-il pas déjà revenu ? Ce à quoi Pierre répond. Il ne tarde pas. Ce mot signifie en retard. Cela peut aussi signifier flâner. Il ne traîne pas. Il n'est pas lent. Il n'est pas en retard. Ce n'est pas la lenteur de l'impuissance, ce n'est pas la lenteur de l'indifférence, ce n'est pas la lenteur de la distraction, ce n'est pas la lenteur de l'apathie. Il n'est pas en retard. Vous vous souvenez que dans Galates 4, il est dit « Lorsque les temps étaient accomplis, Dieu envoyait son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Dieu fait tout dans la plénitude des temps. Il fait tout dans les délais, à temps. Il n'est pas lent. Il n'est pas rapide, il n'est pas en avance, il n'est pas en retard, il est à l'heure. » Dans Hébreux 10, 23, il est dit « Car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Au verset 37, il est dit « Celui qui doit venir reviendra, et il ne tardera pas. Il viendra dans les délais, il n'est pas lent, il ne traîne pas, il ne manipule pas le temps. Il viendra en fait. » Vous vous souvenez de Tite 1, 2, où il dit « Dieu qui ne ment point. » Hébreux 6, 18 dit « Il est impossible que Dieu mente. » Dans Apocalypse 19, 11, il désigne Christ comme le fidèle et le vrai. Dieu est fidèle. Dieu garde sa parole, tout comme Christ. Ainsi, Pierre nie catégoriquement que le Seigneur retarde son retour par indifférence, apathie ou impuissance. Il nie que le Seigneur soit en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Il peut sembler en retard aux moqueurs, et il peut sembler en retard pour certains croyants, qui était craintif et inquiet, mais il n'est pas en retard. Il est toujours parfaitement dans les délais. De telles pensées sont purement humaines, et il le dit. Le Seigneur ne tarde pas à faire sa promesse, comme certains comptent la lenteur. Certains, dans le courant de la vie humaine, pourraient le voir de cette façon. Certains moqueurs et certains croyants involontaires, qui adhèrent aux mensonges des faux enseignants. Certains croyants n'ont apparemment pas compris le verset 8. Qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour dans l'esprit du Seigneur. Et ils ont été victimes des railleries et des moqueries, et ont commencé à croire que le Seigneur était lent. Mais Pierre dit qu'il n'est pas lent comme certains moqueurs, et apparemment certains croyants involontaires compteraient la lenteur. Le retard apparent de Dieu n'est pas dû à un échec de sa part. Pierre le dit très précisément. Mais il est patient envers vous. Il y a la pensée clé dans tout ce passage. Le retard apparent n'est pas dû à une panne. Cela est dû au caractère de Dieu. C'est le résumé de Pierre en termes d'argumentation, comme il fait valoir à partir des Écritures dans les versets 1 et 2, et à partir de l'histoire dans les versets 5 à 7, et à partir de l'éternité de Dieu au verset 8. Il discute maintenant du caractère de Dieu. Il est patient. Il attend patiemment la seconde venue. Maintenant, gardez cela à l'esprit, bien-aimés. La seconde venue de Jésus-Christ est avant tout un événement de jugement. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? C'est avant tout un événement de jugement. Nous prévoyons le retour du Christ qui prendra les siens pour être avec lui. Mais c'est vraiment un événement spécial avant le jour du jugement, quand le Seigneur Jésus prendra les siens. En fait, il ne vient jamais jusqu'à la terre. Nous le rencontrerons au ciel, n'est-ce pas? Nous le rencontrerons dans le premier ciel. Il ne reviendra pas vraiment jusqu'à ce qu'il revienne pour juger. Donc la raison pour laquelle sa venue semble retardée est parce qu'il est si patient avec les pécheurs. Il retarde et retarde le jugement, parce qu'il a prévu de le faire, et parce qu'il est patient. Il y a un certain nombre de passages de l'Écriture qui exigent notre attention. Romains 2,4 dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Paul est là en train de dire que Dieu a en fait mis ses plans de jugement dans le futur, afin qu'en ce moment présent, il puisse faire preuve de patience envers les pécheurs, afin qu'ils se repentent. Il donne aux gens le temps de se repentir. Dans Romains 9,22, cela nous donne un autre aperçu du caractère de Dieu. Il dit, « Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition ? Il est tellement patient. » Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 20, cela nous ramène au temps de Noé. Il dit, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Combien de temps Dieu a-t-il attendu? À quel point était-il patient? Pendant 120 ans, Noé a construit un bateau et a prêché la repentance. Et Dieu est patient, patient, laissant aux hommes un temps pour se repentir. Maintenant, dans le chapitre que nous étudions aujourd'hui, de Pierre, chapitre 3, regardez le verset 15, où Pierre dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. C'est à des fins de rédemption que Dieu est patient. C'est dans un but de repentance et de salut que Dieu attend. Donc les moqueurs voient le retard comme un vice, et Pierre le présente comme une vertu. Maintenant, vous vous rappelez que la seconde venue de Jésus-Christ est un temps de jugement, de condamnation et de damnation à l'enfer éternel. De tous les impies. Mais Dieu, dit-il, dans Joël 2,13, est lent la colère et riche en bonté. Luc 15,20, il fut ému de compassion. Dieu tient dans sa main le pouvoir de tuer, le pouvoir de détruire, le pouvoir de jeter dans l'enfer éternel. Lui seul a ce pouvoir. Le pouvoir de tuer un monde entier aussi rapidement qu'une pensée, mais il est patient avant de détruire. Pensez à sa patience. Il endure très patiemment d'innombrables adultères, de meurtres, de mensonges, de fornications, de vols, de tromperies, de violations sans fin de sa loi. Il endure les blasphèmes contre son nom, les débauches, les défis à sa sainte volonté souveraine. Il endure les lèvres lâches du jureur profane. Il endure tout cela, et il est patient, patient. Il aurait parfaitement le droit de consumer le pécheur la première fois qu'il commet un péché. De retour dans Exode 34, au verset 6, il est dit de Dieu, « L'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent la colère, riche en bonté et en fidélité. » Cela en passant est souvent répété dans l'Ancien Testament. Il est vrai, triste à dire, que plus le Dieu de miséricorde divinement compatissant souffre patiemment de nos iniquités, plus la méchanceté des hommes présume de cette patience. Ainsi, tout en ayant un désir vrai, fort et impérieux, pour le salut du pécheur, Dieu est patient pour lui donner l'espace pour se repentir. Bien qu'il soit définitivement patient vers les élus, Dieu est patient avec tous. Prenez l'analogie de Noé. Dieu était-il patient uniquement avec Noé? Dieu était-il patient uniquement avec la femme de Noé? Dieu était-il patient uniquement avec les trois fils de Noé et leurs trois épouses? les 8 âmes qui ont été rachetées? Certainement pas, car leur foi et leur salut ont certainement eu lieu des années avant la venue du déluge, et Dieu a manifesté, alors qu'ils étaient croyants, une grande patience avec les pécheurs qu'ils devraient finalement détruire. Ainsi, comme je vous l'ai lu dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 20, la patience de Dieu a continué à attendre, au temps de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle quelques personnes, c'est-à-dire 8 personnes, ont été amenées en toute sécurité à travers l'eau. Longtemps après que les 8 furent en sécurité, pour ainsi dire, dans le giron de la foi, Dieu attendait toujours patiemment que les pécheurs se repentent. Dieu par nature est compatissant. Dieu par nature est gracieux, miséricordieux, aimant, gentil, indulgent, et Dieu est sauveur. Dans Luc, chapitre 13, verset intéressant, verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus a dit ces paroles, et il dit que le chemin de la mort est le chemin d'un cœur impénitent. Le chemin de la damnation est le chemin d'un cœur non repentant, de celui qui rejette Jésus-Christ et s'accroche au péché. Il y a d'autres personnes qui regardent ce verset et disent « Si Dieu souhaite que personne ne périsse, mais que tous viennent à la repentance, alors personne ne périra, et tout le monde viendra à la repentance. » Nous appelons ces personnes des universalistes, et ils pensent que tout le monde va être sauvé. Mais si tout le monde veut être sauvé, alors tout l'enseignement de la Bible sur le jour du Seigneur est un mensonge. Car il dit que lorsque le jour du Seigneur viendra, les pécheurs seront détruits. Alors je vous soumets que je crois en l'élection souveraine de Dieu, je crois en la prédestination des croyants à la vie éternelle. Mais je crois aussi que ceux qui vont en enfer partent, parce qu'ils ont fait un choix, sont responsables de leur propre rejet et de leur cœur impénitent. Dieu doit harmoniser ces choses, je ne le peux pas. Mais je sais que le cœur de Dieu est brisé lorsque les pécheurs refusent de se repentir. Maintenant, il y a un paradoxe ici, évidemment, parce que Dieu cède finalement à sa sainte justice. Il y a un moment où sa miséricorde, sa grâce, sa compassion et sa patience prennent fin. C'est vrai dans chaque vie individuelle. Dieu peut se repentir et donner à un homme 60 ans. Mais à 60 ans, cela se termine, et il meurt sans se repentir, sans croire en Christ. Dieu peut donner à une femme 70 ans, mais à 70 ans, cela se termine. Dieu peut donner à une civilisation tant d'années, puis un holocauste de grande envergure anéantira une grande partie de sa population. Dieu donnera un certain temps au monde, mais comme il est dit dans Genèse 6, « Mon esprit ne luttera pas toujours avec l'homme. » Après 120 ans de prédication, le déluge est arrivé, et c'était fini. Enfin, et en fin de compte, la justice, la sainte justice de Dieu enverra les hommes et les femmes non croyants en enfer. Il décrète cela, bien que ce ne soit pas le désir de son cœur. Ainsi il le fait parce que les hommes refusent ce qui leur est offert. L'Écriture le dira, dans Jude 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, les impies qui persistent dans l'impiété, sont prédestinés à être damnés. La repentance est la seule voie vers le salut et la foi en Jésus-Christ, se détournant du péché pour recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme je le dis dans Romains 2, 4, Dieu est patient pour que les pécheurs puissent être pénitents. Dieu est patient pour que les pécheurs soient pénitents. Ainsi, dit Pierre, 4 arguments pour la venue du Christ. L'argument de l'Écriture dit qu'il vient. L'argument de l'histoire dit qu'il a déjà jugé dans le passé. Il y a un précédent. L'argument de l'éternité dit que, si cela semble long, souvenez-vous que c'est pour vous, mais pas pour lui. L'argument de caractère dit qu'il vient, et que la raison pour laquelle il attend si longtemps, c'est parce qu'il est patient pour donner le temps aux pécheurs de se repentir. Car ce n'est pas son désir, bien qu'en fin de compte, c'est son décret, que les impies soient damnés. Sur la base de ces 4 arguments, Pierre affirme ensuite la venue du Christ au verset 10. Regardez le verset 10. C'est le résultat de ces arguments, la déclaration d'affirmation. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Quelle déclaration ! Le jour du Seigneur viendra. Le jour du Seigneur, souvenez-vous, s'il vous plaît, est un terme technique pour le point culminant. Le jugement de Dieu, qui vient à la fin de cet âge, pour mettre fin à ce monde tel que nous le connaissons. Les prophètes de l'Ancien Testament y voyaient un jour d'obscurité et de damnation sans égale, un jour où le Seigneur agirait de manière décisive pour justifier son nom, détruire ses ennemis, révéler sa gloire et établir son royaume. Si vous regardez Ésaïe chapitre 2 ou chapitre 13, si vous regardez Ézéchiel chapitre 13 ou chapitre 30, si vous regardez Joël chapitre 1, chapitre 2 ou Amos chapitre 5, si vous regardez dans ce seul chapitre de Abdias verset 15, dans Sophonie chapitre 1, Zacharie chapitre 14, Malachie chapitre 4, où que vous regardiez, et que vous voyez le déroulement du dernier jour du Seigneur, vous le voyez comme un temps de jugement. Certains prophètes indiquent qu'il y aura des signes préliminaires, et ils en écrivent donc. Certains écrivent sur ce à quoi cela ressemblera, quand cela se produira, comment cela se produira, et certains parlent de ce qui se passera après la fin. Mais les prophètes voient tout cela comme un jour de jugement et de malheur. Pour les écrivains du Nouveau Testament, c'est pareil. Chaque fois que les auteurs du Nouveau Testament parlent de ce terme, le jour du Seigneur, c'est un terme effrayant. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, « Vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et pendant que les gens disent paix et sécurité, la destruction s'abattra sur eux soudainement. C'est une période de dévastation et de destruction. » 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2, « Le jour du Seigneur va venir. » Et de nouveau, il est associé ici au mal. Elle est précédée d'une apostasie, un homme d'anarchie, l'antéchrist, fils de perdition ou de destruction. Plutôt dans cette même épître, le premier chapitre, il décrit l'événement lui-même. Quand le Seigneur Jésus vient du ciel, verset 7 du chapitre 1, avec des anges puissants et un feu foudroyant, infligeant le châtiment à ceux qui ne connaissent pas Dieu, et à ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils paieront la peine de la destruction éternelle, toujours un moment de jugement. Quand Jésus en a parlé dans Matthieu 24, l'accent était mis sur la dévastation, ainsi que sur le rassemblement des élus. Alors Pierre dit que cela viendra, ce terme technique décrivant le jour du jugement. Et cela viendra, dit-il, comme un voleur. Que veut-il dire par là? Ce sera une arrivée surprise, une effraction surprise. Si vous voulez, une arrivée soudaine, inattendue, désastreuse, pour les non-préparés. Et le verbe, d'ailleurs, a la force d'un temps présent. Cela pourrait être lu de cette façon. Le jour du Seigneur sera arrivé, comme un voleur. Nous ne savons pas quand. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Ce n'est pas à nous de le savoir. Mais toutes les générations vivent dans l'attente, car cela peut venir à tout moment. Et donc Pierre dit que ce jour viendra. C'est inévitable. Et puis il décrit son déroulement. Regardez le verset 10. « Quand ce jour viendra, les cieux passeront avec un rugissement. » C'est une image tellement dramatique. Cela me rappelle, et peut-être vous, l'enseignement de notre Seigneur dans Matthieu 24. Et je ne veux pas entrer dans le détail, parce que nous l'avons déjà étudié. Mais au verset 35, il est dit « Le ciel et la terre passeront. » Ce sont les paroles de Jésus. « Le ciel et la terre passeront. » Dans Luc 21:33, la même chose est dite. Dans Marc 13:31, la même chose est dite. Nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse plus de détails à ce sujet. Chapitre 6 de l'Apocalypse, verset 14. Le ciel se retirera tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. La terre entière et le ciel bouleversés. Les étoiles du ciel, verset 13. Sont tombés au sol comme un figuier jette ses fruits immatures, lorsqu'il est secoué par un grand vent. Le soleil devient noir comme un sac fait de cheveux, et la lune devient comme du sang. Les cieux commencent à se désintégrer, complètement. Que veut-il dire par les cieux? L'univers physique est visible. L'étendue voûtée. Le ciel avec tout ce qu'il contient. Dans l'hébreu primitif, il ne semblait pas avoir de concept, ni même de mots pour l'univers. Il parlait simplement des cieux. Mais ici, cela signifie que tout l'univers passera. Veuillez le noter, ce n'est pas par l'homme, ce n'est pas par le cours naturel des choses. Ce ne sera pas un holocauste artificiel parce que quelqu'un lâche une bombe A. Et ce ne sera pas une sorte de catastrophe environnementale parce que nous avons surpollué l'ozone avec trop de lacs et de déodorants. Ce ne sera pas cela. Ce sera l'intervention de Dieu. Dieu va le détruire. l'univers entier va disparaître. Certaines personnes ont essayé d'attribuer cet événement à la fin de la tribulation, avant le royaume millénaire. Ce n'est pas possible, car vous avez la destruction de tout l'univers. En fait, dans Ésaïe 34:4, il est dit « Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne. » Pouvez-vous imaginer que, si vous déroulez un parchemin et que vous le lâchez, il se rétracte simplement? L'univers entier s'enroule. Il le fait avec un rugissement. Un mot intéressant. Le mot est roïdsédon. C'est une onomatopée. Un autre de ces mots qui ressemble à sa signification. Cela signifie avec un sifflement ou un crépitement d'objets consumés par les flammes. Le bruit sera absolument assourdissant. Le rugissement d'un feu qui ne ressemble à rien de ce que vous pouvez imaginer, alors que tout l'univers tombe dans une flamme crépitante, sifflante et furieuse. Nous sommes clairs à ce sujet, à cause de ce que Pierre nous a déjà dit. Verset 7. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et préservés pour le feu, au jour de la fin du jugement. Dieu va apporter un feu qui brûle littéralement tout l'univers. Puis il dit, « Et les éléments seront détruits par une chaleur intense. » Les éléments, stoïcheia, signifient littéralement des choses dans une rangée, comme des lettres dans une rangée, ou des nombres dans une rangée, des choses de base, appliquées au monde matériel. Cela signifie les éléments de base qui font partie de la composition chimique de l'univers, les composants dans lesquels la matière est finalement divisible. Encore plus bas, dans la structure atomique, jusqu'aux éléments mêmes qui composent l'univers, les atomes, les neutrons, les protons, les électrons, ils vont être dissous, être littéralement luo, détruits. Comment? Avec une chaleur intense, une chaleur furieuse, au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer. Nous avons parlé au verset 7 dans notre étude précédente, comment maintenant même le noyau de la terre est une boule de feu, ainsi que toutes les boules de feu qui existent dans le ciel, les étoiles et les soleils. Cet univers entier a jadis pris l'eau, si vous pouvez le dire ainsi, et il va s'enflammer dans le futur. Il dit au verset 10, « Les cieux passeront avec fracas, les cieux s'en iront et la terre aussi, la totalité de la terre physique et naturelle telle que nous la connaissons, avec tout son écosystème et son système social, sera consommée. » Maintenant, c'est une chose incroyable, c'est quelque chose qui est au-delà de toute description. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur protège ses brebis à travers cela. À travers tout cela, ceux qui lui appartiennent, à travers cet holocauste ultime et dévastateur, et nous amène dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Maintenant, certains d'entre vous disent, « Attendez une minute, le jour du Seigneur ne vient-il pas à la fin de la tribulation ?»« Si, mais ne décrivez-vous pas quelque chose qui se passe à la fin du millénaire, avant les nouveaux cieux et la nouvelle terre ?»« Si, car il est dit au verset 13, « Nous recherchons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Mais vous dites, « Attendez une minute, je connais une petite prophétie. N'y a-t-il pas 1000 ans entre eux ?»« Si, vous dites. Alors, est-ce que le jour du Seigneur dure 1000 ans ?»« Pas vraiment. Le jour du Seigneur a une composante qui se produit à la fin de la tribulation, lorsque Jésus vient à la fin de la bataille d'Armageddon et consume les méchants. Le jour du Seigneur a une autre composante à la fin du royaume millénaire. Mais ne soyez pas troublés par cela, parce que le verset 8 l'explique. Avec le Seigneur, un jour est quoi? 1000 ans. Et le jour du Seigneur n'est qu'un jour avec lui. Du point de vue humain, il y a un intervalle de 1000 ans entre la phase 1 et la phase 2. Avec lui, c'est un jour du Seigneur. Dans ce dernier moment, tout le système solaire et les grandes galaxies seront abolis. Tous les éléments qui composent le monde physique seront dissous par la chaleur et fondront complètement. C'est une image étonnante, qui est vraiment l'acte final de Dieu pour détruire les impies restants, qui se sont accumulés pendant le royaume millénaire. Il détruit ceux qui sont sur la terre à la venue de Christ, à la fin du temps de la tribulation, puis le royaume de 1000 ans. Des personnes naîtront qui rejetteront le Christ. Un nombre incalculable de personnes lutteront contre Dieu. Satan sera libéré à la fin des 1000 ans et mènera une rébellion contre le Seigneur. Dieu viendra dans le jugement ultime final, pour la dernière fois, et détruira l'univers entier, et établira un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous en verrons plus à ce sujet, au fur et à mesure. La voix courroucée de Dieu viendra au jour du Seigneur. C'est inévitable. Les moqueurs peuvent se moquer. ils ont tort. Ils peuvent argumenter du point de vue de l'émotion et des sentiments. Ils peuvent argumenter du point de vue de la moralité, ne voulant aucune responsabilité, voulant vivre comme ils le souhaitent, sans scrupules, sans contraintes et sans personne à qui répondre. Ils peuvent argumenter bêtement, aveuglément, volontairement, à partir d'une vision révisée de l'histoire. Mais leurs arguments sont insensés. Le jour du Seigneur viendra, quand il frappera, il détruira soudainement avec furtivité, comme un voleur. Avant que ce ne soit fini, l'univers entier sera hors de l'existence telle que nous la connaissons, et tout un nouveau ciel et une nouvelle terre où n'habite que la justice. Les hommes et les démons impies seront condamnés à l'enfer éternel pour toujours. Il vient, et il est dans les temps. La prochaine fois, nous découvrirons les implications de cela dans nos vies. Père, merci pour notre temps dans ta parole ce soir. Tant de choses à dire, tant de riches vérités. Ô Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné un avertissement aussi clair. Quel Dieu gracieux tu es, non seulement pour être patient, mais pour être si clair dans ta révélation, que nous pouvons comprendre et savoir. Tu as rendu ta parole disponible. Nous te remercions pour ta passion, ta compassion, ta grâce, ta miséricorde, ta bienveillance. Nous te remercions de ne pas vouloir que les hommes périssent. Tu as prouvé que tu aimais les hommes lorsque tu as donné ton Fils pour les racheter. Mais Seigneur, nous savons qu'en même temps, pendant que ta patience persiste, il y aura un jour où la sainte justice tombera, car ta grâce a sa limite. Nous prions pour que personne, n'entendant ce message, ne ressente l'écrasement de ce moment de jugement et de sa douleur éternelle, parce que tous seront venus au Christ, se détournant du péché, pour l'embrasser comme Sauveur et Seigneur, au nom duquel nous prions. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.